Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Charles Magnin.
On est ensemble jusqu'à 15h, c'est Estelle Midi en direct à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story. Bon sang Estelle, vous l'avez compris, en ce lundi, elle sera de retour dès demain. Mais aujourd'hui, on a une magnifique équipe autour de la table. À mes côtés, Martin Bourdin, salut Martin.
Salut Charles, bonjour à tous.
L'influenceuse, entrepreneuse, Élise Goldfarb est là aussi, comme salut. Toujours extrêmement réveillée le lundi matin.
Désolée, je viens de bailler, on dirait que j'ai pleuré. Mais voilà, oui, je suis fatiguée, bah, c'est lundi. C'est lundi,
oui.
C'est la fin de la semaine.
Et bah heureusement.
Donc, bonjour.
Heureusement, il y en a un qui a de l'énergie le lundi. C'est Jérôme Lavrieux, propriétaire de Gîte. Salut Jérôme. Et
salut Charles.
Et puis la journaliste à l'incorrect, Juliette Brien, c'est là aussi en pleine forme. Bonjour Juliette.
Bonjour tout le monde.
Dans un instant, les amis, on va parler des suites de la mort de Liana et ses appels à manifester partout en France ce soir devant les palais de justice. Est-ce que vous allez vous mobiliser? Vous venez nous le dire dans un instant au 32-16. À midi et demi, on parlera de Kylian Mbappé et de son image à la veille de l'entrée des Bleus à la Coupe du Monde. Le capitaine de l'équipe de France qui multiplie les interviews, les prises de parole, les prises de position aussi. Quelle image avez-vous de Kylian Mbappé aujourd'hui? Est-ce que vous le trouvez génial ou détestable? On se posera la question à midi et demi. Et puis à 13h30, on parlera de ces maires qui suppriment des pistes cyclables un peu partout en France, à Lyon, à Avignon, à Aurillac. Ils veulent redonner plus de place à la voiture en ville. Alors est-ce que vous êtes pour ou contre cette suppression des pistes cyclables? Vous venez nous le dire au 32-16. Sans oublier le WhatsApp de l'émission pour tous vos messages en direct, Martin.
06 12 424 424. On lira tout ça ensemble.
RMC Estelle Midi.
Et on commence avec l'appel du jour. L'appel à se rassembler aujourd'hui et tous les lundis désormais devant les palais de justice partout en France. 160 structures, associations féministes, de protection de l'enfance aussi, qui lancent cet appel afin de réclamer une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes. Une mobilisation qui fait suite évidemment à la mort de Liana. Martin, d'abord, qui sera dans la rue ce soir?
Beaucoup de femmes, notamment des enfants aussi. Ce sont surtout, tu l'as dit Charles, des collectifs féministes et des associations de protection de l'enfance qui appellent à la mobilisation, nous toutes, aux îles féministes, le féminisme notamment, mais aussi le collectif enfantiste face à l'inceste, les petits invincibles. Aussi, plus de 150 000 personnes avaient répondu à leur premier appel la semaine dernière dans 200 villes un peu partout en France. D'après la Fondation des Femmes, ces 160 associations veulent donc remettre ça tout à l'heure à 19h et tous les lundis. Aujourd'hui, il y a des rendez-vous prévus, notamment à Saint-Nazaire, à Toulouse, à Montpellier, Bourg-en-Bresse, entre autres. Je vais pas vous faire la liste parce qu'il y a beaucoup de villes qui sont concernées. Si vous ne pouvez pas y aller, hurlez votre colère à vos fenêtres. Ça, c'est ce qu'a exhorté l'une des voix de ce mouvement, la réalisatrice Andrea Bescon. Il y a aussi un appel à une grande manifestation le samedi 4 juillet. L'objectif, c'est évidemment de dénoncer les dysfonctionnements de la justice qui ont mené à la mort de Liana, de demander aussi aux députés de faire voter ce qu'on appelle donc la loi intégrale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dont les défenseurs, et notamment la rapporteuse du texte, sont reçus aujourd'hui à Matignon. Plusieurs mesures dans ce texte, notamment le renforcement des peines pour les violeurs en série sur mineurs, imposer un délai maximal de 3 mois pour les actes d'enquête concernant les crimes sur des enfants. Une pétition réclamant cette loi a été lancée en ligne. Près de 300 000 personnes l'ont déjà signée.
Alors il y a ces signatures en ligne, cette pétition, mais il y a surtout ces Français qui vont se mobiliser dans la rue, comme lundi dernier. Ce sera ce soir un peu partout en France, devant les palais de justice. Juliette Brien, est-ce que vous pourriez aller manifester devant les palais de justice ce soir?
Bon bah déjà, inutile de vous dire ce que je pense de ce qui s'est passé avec Liana. J'espère que les parents de Liana porteront plainte contre l'État. Pour moi, l'État est complice du meurtre de Liana. C'est insupportable. Mais moi, ça fait des années que je dénonce le laxisme judiciaire qui entraîne parfois ce genre de mort violente ou de viol insupportable. Le problème, c'est que à l'époque où je dénonçais ça pour l'affaire Philippine, pour l'affaire Lola et tant d'autres, ces mêmes associations-là qui seront devant le palais de justice ce soir, elles dénonçaient la récupération d'extrême droite. Donc, je soutiens le fond. Je suis très contente, si vous voulez, qu'il y ait enfin une prise de conscience sur l'état de notre justice aujourd'hui. Mais c'est pas la première fois. Et moi, ces associations-là, qui m'ont traité d'extrême droite et de récupération d'extrême droite, au moment où une juge des libertés relâchait un mec qui avait déjà violé une femme dans un parc et qui, en plus, était sous OQTF 16 jours avant qu'il aille attraper, violer et assassiner Philippine, à ce moment-là, elle me traitait d'extrême droite. Donc, je n'ai rien à leur dire et jamais de ma vie je n'irai marcher à leur côté. Voilà.
Oui, mais est-ce que la cause,
évidemment,
n'est pas plus forte que les divisions politiques.
C'est, je comprends, mais je veux dire, cette marche, elle sera menée par ce genre d'association. Les slogans seront les leurs, et j'ai rien à leur dire. Je suis dans le combat tout autant qu'elles, parce qu'elles ont décidé de l'être aujourd'hui. Mais je n'irai pas marcher à leur côté. Voilà, c'est clair, c'est impossible pour moi. Il y a eu trop de trahison, il y a trop de choses qui ont été dites, et c'est un combat que je mène depuis trop longtemps pour un jour, aller marcher de manière fraternelle avec ces gens avec qui tout m'oppose en fait. Voilà.
Élise Goldfarb, vous êtes une femme aussi, on l'a dit, il y a beaucoup de collectifs féministes. Non, mais c'est vrai, non, mais parce qu'on se pose aussi, il y a aussi une question qu'on se posera ensuite, c'est où étaient les hommes? Lundi dernier, on a vu très peu d'hommes dans ces mobilisations. On verra ce qu'il en est ce soir. Mais Élise Goldfarb, est-ce que vous pourriez aller manifester ce soir aux côtés de ces collectifs féministes et de protection de l'enfance?
Bon, déjà, Juliette, je veux te dire, je peux comprendre ce que tu veux dire sur les associations. Moi, personnellement, ça me saoule de marcher avec nous toutes. Voilà. En revanche, évidemment que je vais aller devant les tribunaux pour manifester. J'y étais lundi dernier. Je pense que pour moi, l'affaire Liana, elle devrait réveiller quelque chose comme les Gilets jaunes. On devrait avoir un mouvement de la même ampleur que les Gilets jaunes. Pourquoi ? Les Gilets jaunes, c'était quoi le sujet ? C'était la hausse du prix du carburant. Excusez-moi. Des enfants qui se font violer aujourd'hui. C'est mille fois plus grave, en fait, que la hausse des carburants. Je ne comprends pas comment toute la société n'est pas mobilisée pendant des semaines durant. Et exactement, un autre truc que je me demande, c'est est-ce qu'il y aura des hommes? Parce que moi, lundi dernier, je n'ai pas vu d'hommes, place Vendôme. Je n'ai pas vu d'hommes. Et je me suis demandé, mais j'en ai vu quelques-uns. Attention, Jérôme, je te vois sourciller. J'en ai vu quelques-uns des hommes, mais face à l'ampleur du problème, c'était minable. Et j'aimerais juste rappeler quelque chose. Les enfants victimes de VSS, de violences sexistes et sexuelles aujourd'hui, c'est 160 000 par an. C'est 3 enfants par classe. C'est un enfant qui se fait violer toutes les 3 minutes en France. D'accord ? Donc, je comprends pas les hommes. C'est vos enfants aussi. C'est vous, quand vous étiez enfant, qui vous êtes fait violer aussi. C'est 98% d'hommes aujourd'hui qui sont coupables de viol sur des enfants. Pourquoi vous n'êtes pas là ? Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un problème de femmes ? Pourquoi est-ce qu'il y a que des meufs ? Ce n'est vraiment pas notre problème. Nous, si on est bien quelque chose, c'est victime. Hein. Parce que c'est pas les femmes aujourd'hui qui violent. Les femmes, elles représentent 2% des agresseurs sexuels et des prédateurs. Donc pourquoi les hommes qui sont les principaux concernés ne sont pas là ? Tant qu'il n'y aura pas d'hommes, on ne pourra pas dire le « not all men », en fait. Si vous étiez là, le mouvement serait tellement plus fort.
Élise, est-ce qu'il n'y a pas un même mouvement, un peu que celui de Juliette ? Et toi aussi, tu as commencé en disant « je vais pas y aller, je vais y aller, même si je ne suis pas contente de manifester aux côtés d'un tel ou un tel. »
Regarde.
Est-ce qu'il n'y a pas certains hommes
parce que quand il y avait les Gilets jaunes,
pas les bienvenus.
Regarde le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que les gens se sont posé la question de savoir si c'était la gauche ou la droite ? Il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de droite, il y avait l'extrême gauche, il y avait l'extrême droite.
Mais il n'y avait pas d'association qui organisait. Il n'y avait pas une association qui disait « venez nous rejoindre ».
C'était populaire.
Oui, mais là, il faut pas tomber dans le piège des associations qui essayent de noyauter ce combat, justement. Je vous le demande. N'essayez pas de tomber dans le piège. Elles sont 160, ces associations. Entre nous toutes et Oser le féminisme et infanticide, il y a 10 000 opinions entre ces trois assos. Il y a 10 000 opinions différentes. Ne tombons pas dans le piège. Nous devons absolument nous lever contre ce problème. Vous savez, ça veut dire quoi ? 3 enfants par classe. Ça veut dire que dans ce studio, dans ces bureaux, c'est obligé qu'il y ait des victimes. On côtoie des victimes tous les jours et on côtoie aussi des prédateurs. On doit absolument inverser la tendance, changer cette culture, et ça passera par nous, ça passe par nos générations, ça passe par un éveil dans ce qu'on conçoit être les violences faites aux enfants.
Oui, mais ils étaient où avant tous ces gens ?
Je suis d'accord, mais Juliette, je sais, mais viens, on avance. Moi, j'en ai marre. Je suis d'accord. Je comprends ce que tu dis, mais je me dis là, stop. On arrête de ressasser le passé, on arrête de ruminer, on avance.
Jérôme Lavrieux, est-ce que d'un point de vue politique, est-ce que ça peut faire bouger le gouvernement si tous les lundis, un peu comme les Gilets jaunes, c'était le samedi à l'époque, il y a des centaines de milliers, alors c'était 150 000 la semaine dernière, on verra ce qu'il en est ce soir, mais si ça devient récurrent, si toutes les semaines les Français crient leur colère, même si Emmanuel Macron a dit qu'il ne fallait pas crier en réponse à ce drame, si les Français vont crier sous les fenêtres des palais de justice toutes les semaines. Est-ce que ça peut faire bouger le gouvernement? Parce que pour l'instant, on a l'impression que il se renvoie la balle sur qui est responsable, un tel devrait démissionner, etc. Il y a une guéguerre politique qui se met en place. Mais est-ce que le fait que ce soit les Français qui soient sous les fenêtres des palais de justice, ça peut faire bouger les choses en profondeur? Et j'insiste sur le « en profondeur » et pas juste debout d'amendements dans une loi et on dit « allez hop, on passe à autre chose ».
Mais j'espère que c'est pas ça qui va faire bouger. Pour une raison simple, la France, contrairement à l'Espagne, qui a subi la même chose, mais il y a 10 ou 15 ans maintenant déjà, avec les manifestations, la couleur, on s'habillait en violet, oui, à l'époque. C'est les millions de personnes dans la rue qui ont fait bouger les gouvernements espagnols. Mais la France n'a pas de tradition de manifestation. Non, la dernière grande manifestation, il y en a eu deux au XXe siècle. C'était en 68, soutien au général de Gaulle, spontané, plus ou moins. Et la manifestation sur l'école libre dans la fin des années 80. Depuis, quand on a 100 000 personnes sur l'ensemble du pays, on est content, la CGT dit qu'il y en a 400 000.
Ouais, c'est arrivé, sur les retraites, c'est arrivé pendant les Gilets jaunes.
Charlie Hebdo, on était 3 millions.
Je veux juste dire une chose, C'est que si on doit considérer que les seules personnes qui s'intéressent à ce sujet sont ceux qui vont aller, les personnes sont celles qui vont aller manifester, certains pourraient en tirer les conclusions qu'en fait, ça intéresse qu'une petite partie de la population. Voilà. C'est pas parce qu'on n'y va pas qu'on n'est pas, parfois dans sa chair, très intéressé sur ce genre de sujet, et parfois depuis très longtemps. Quand j'étais député européen, je vais vous raconter une anecdote. Il y a la commission, une commission au Parlement européen qui est sur l'égalité des genres. Donc de toute l'extrême droite française, tu dis égalité des genres, en fait c'est une traduction littérale,
oui,
de l'anglais vers le français. J'ai été le seul député européen français de droite volontaire pour y siéger. D'accord. Mais j'étais volontaire et j'y suis allé et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Mais moi, je ne vais jamais manifester. Quelle que soit la cause, pour une raison simple, ceux qui font le mot d'ordre, j'ai toujours l'impression qu'il y a des arrière-pensées derrière et des indignations sélectives. Voilà. Moi, le droit des femmes, il se découpe pas en rondelles en fonction de telle ou telle chose. Le droit des femmes, c'est si on avait l'idée de manifester, on aurait dû être des millions pour défendre les iraniennes. Et il y a eu très peu d'associations féministes qui sont descendues dans la rue.
Donc c'est quoi? C'est ne pas aller manifester par crainte des récupérations?
Non, par le fait qu'il y ait des choix sélectifs parmi ceux qui organisent. Voilà. Vous faisiez allusion à ce qu'a dit Emmanuel Macron en disant on ne répond pas à ça par des cris. Il faisait allusion aux cris dans l'hémicycle.
Oui, bien sûr. Mais ça a été mal pris
dans l'hémicycle.
On va dire que ça a été mal pris par tous ceux qui sont venus crier leur colère.
Oui,
à la place Vendôme.
Il y a beaucoup
dernière.
De gens comme moi qui sont des amoureux de la démocratie parlementaire, qui ont mal pris. D'ailleurs, une députée s'est excusée au nom de tous les autres du fait que la petite était pas encore enterrée, que certains s'en servaient pour vociférer, n'avaient qu'un objectif, c'est de demander la démission de tel ou tel. Oui. Ils auraient pu regarder la poutre qui était dans leur œil plutôt que la paille de celui du ministre. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'y va pas manifester. Moi j'ai peur qu'on dise, bah là il y a eu moins de monde que la dernière fois, puis il y aura eu moins de monde la fois d'après et encore moins de monde. Business as usual. C'est pas ça.
Oui, mais l'autre risque, c'est que le gouvernement se dise, il y a deux fois moins de monde que la semaine dernière, ils sont en train de se tasser, on passe à autre chose. Les Français sont passés à la Coupe du Monde, hop, et on traitera ça plus tard.
Je vous remercie, Charles, d'aller dans le sens qui est le mien, c'est de dire que ça ne peut pas être le baromètre. Et seulement le baromètre.
Je pense
que le baromètre, c'est nos députés qui n'arrivent pas à créer une majorité pour voter un budget, créer une majorité pour examiner le plus rapidement possible la loi intégrale.
Oui, ça devrait pas faire l'objet de débat politicien.
Pour le coup, ils réclament tous les bords politiques.
Oui, mais tu vois bien
qu'il faut qu'ils se mettent d'accord.
Tu vois bien, Jérôme, qu'il y a une sensation que s'il n'y a pas un énorme scandale ou une énorme manif, notre gouvernement, il est amorphe.
Parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée.
D'accord, mais c'est quand même un sujet qui est plutôt rassembleur.
Enfin, les associations, qui organisent le rassemblement là de ce soir, est-ce qu'elles acceptent Barreau Vert, par exemple, un groupe proche du Rassemblement National, une association très à droite, elles acceptent ces gens-là dans leur manif, Non, mais voilà. Il y a des gens qui sont de facto exclus de ces manifestations. Alors, c'est pour ça que les gens n'ont pas envie de se mêler.
Est-ce que vous comptez vous mobiliser ou pas ce soir à répondre à ces appels à se rassembler devant les palais de justice? On va regarder sur le WhatsApp d'abord, Martin, ce que ça donne dans les messages.
On a un papa qui nous écrit au 0612 424 424. Si on ne veut plus jamais voir de drame comme celui de Liana, il faut qu'on se se mobilisent, surtout qu'on ne lâche pas tant que rien n'est fait pour protéger nos enfants des monstres. Moi, j'y serai, nous écrit-il.
Bravo.
Mais d'autres hommes, bah, n'iront pas. On a ce message, par exemple, il faut comprendre que nous, les hommes, nous avons honte de ce qui s'est passé. Mais comment voulez-vous qu'on aille manifester alors que nous sommes souvent pointés du doigt? Comment voulez-vous qu'on aille manifester alors qu'on a honte? Nous écrit cet auditeur au 06 12 424 424.
Et au 32 16, on va accueillir Marie qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Marie, merci de nous avoir appelé parce que je vois que vous êtes juriste et que la semaine dernière vous vous êtes mobilisée, vous étiez devant le palais de justice à Paris.
C'est ça, exactement. Pour la première fois de ma vie, je suis allée dans une... J'ai 40 ans, dans une manifestation, parce que le drame de cette petite fille, c'est le drame de trop. Vraiment de trop. Et juste entre parenthèses, il y avait quand même que quelques hommes. Le mien aurait bien... Mon mari aurait bien voulu participer, mais garder les enfants. Donc c'est peut-être aussi pour ça que peu d'hommes étaient à la manifestation, certainement que beaucoup gardaient les enfants. Moi, ce qui m'a dérangée, effectivement, et c'est pour ça que je n'irai pas manifester ce soir, c'est les discours des associations qui étaient sur place, notamment la dernière, alors je ne me rappelle plus du tout du nom, mais pour moi, qui a été scandaleux. Vraiment, j'avais honte. J'avais honte pour elle parce que on était là pour la petite Liana, pour sa famille, pour dire stop, pour que tout le monde puisse prendre ses responsabilités enfin. Et le dernier discours, ça a été la lutte contre le racisme, la lutte contre les minorités de genre, le traitement des mineurs étrangers isolés. Alors, c'est des causes très noble et très importante également.
Oui, mais qui n'avait rien à voir avec Liana.
Mais d'une indécence et qui n'avait rien à voir. Et je ne me suis pas reconnue là-dedans. Et beaucoup de femmes qui sortaient du travail comme moi, avec des trenches, avec leur ordinateur qui était là pour dire stop, sont parties à ce moment-là. Parce que ce n'est pas l'objet. Et c'est ça que je crains. En fait, dans tous les lundis, ces manifestations, c'est comme vous l'avez dit sur le plateau, c'est qu'il y a une récupération politique sur d'autres causes qui sont aussi importantes. Mais là, celle qui nous intéresse, c'est de lutter contre ce système qui ne protège plus, qui ne protège pas nos enfants.
Oui, mais j'entends bien en tout cas que voilà, vous vous êtes senti un peu récupéré, en tout cas pas en accord avec les discours qui étaient tenus. Et donc Marie, vous y êtes allée lundi dernier, vous n'y retournerez pas ce soir.
Non,
hein.
Non. Mais par contre, c'est ce que je disais à votre collaborateur juste avant.
Au standard.
Au standard. Dans une des communes, alors je me rappelle plus laquelle, à côté dans le 95 où j'habite, il y a eu une manifestation samedi matin devant une mairie. Avec la population qui disait qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce système-là. Et si demain, effectivement, il y a des mobilisations devant les mairies ou même au rond-point, comme les Gilets jaunes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, et ben là, j'irai, mais à 300%.
Oui, mais vous ne voulez pas de bannière politique, d'association qui, voilà.
C'est à nous de ne pas laisser les récupérations se faire, je comprends.
Et c'est une honte pour ces associations-là, parce que tout ce qu'elles font, ça va faire que l'affaire Liana, allez, si la France est en demi-finale ou en finale de la Coupe du Monde, plus personne n'en parlera.
C'est le
après,
risque.
C'est les vacances scolaires.
Mais c'est pour ça, Marie, qu'on en parle aujourd'hui et qu'on
et
a décidé.
À la rentrée,
mais
et
je
à
sais
la
bien.
Rentrée, on recommencera. Et à la rentrée, il y aura de nouveau eu un drame. Et on va recommencer. Et en fait, le problème de c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas représenté ni par nos députés, ni par les associations.
Mais Marie, je vais vous dire, Marie, écoutez-moi, c'est pour ça qu'on a ouvert l'émission aujourd'hui avec ce sujet, parce qu'on veut pas que ça redescende, et je peux m'y engager, et c'est aussi la force du 32-16, c'est que vous soyez dans la rue ou pas, vous pouvez vous exprimer sur RMC, vous pouvez compter sur nous, Marie, pour ne pas oublier Liana, ne pas passer à autre chose. Il y a d'autres choses dans l'actualité, on va parler de beaucoup d'autres choses, mais ne pas, dans une semaine ou deux, complètement balayer ce drame. Évidemment qu'on y reviendra, et évidemment, vous pouvez compter aussi sur RMC pour régulièrement interpeller les responsables politiques sur la question, évidemment, y compris dans les, j'allais dire dans les semaines, dans les mois, voire les années qui viennent. Merci beaucoup, Marie, pour votre témoignage. J'aimerais qu'on ait le temps aussi de donner la parole à Fautini, qui nous appelle des Yvelines au 32-16. Bonjour, Fautini.
Bonjour à tous.
Fautini, alors, vous aussi, vous êtes allé manifester la semaine dernière, c'était à Versailles, c'est ça?
À Versailles, tout à fait, parce que c'est plus proche de chez nous. On voulait aller sur Paris en réalité, mais on n'a pas pu. Enfin, peu importe. Donc, nous y sommes allés avec une amie et lorsque nous sommes arrivés devant le rassemblement, devant le tribunal judiciaire là de Versailles, il y avait un petit rassemblement, on n'était pas non plus des tonnes, hein, on va pas se mentir. En revanche, je comprenais pas pourquoi il y avait des applaudissements, il y avait plus jamais ça, enfin tout ce qui s'ensuit. Et à la porte du tribunal, il y avait quelqu'un qui parlait avec un mégaphone et déjà, bon, on n'entendait pratiquement rien. Et à un moment donné, il y a eu des grosses huées, la foule qui sifflait. Enfin bon, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc comme on n'entendait rien, j'ai demandé ce qui se passait. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que on parle des hommes qui n'étaient pas à la manif, mais la personne qui était là ne voulait pas donner le mégaphone à un homme qui voulait prendre la parole.
Ah oui, voilà. On interdisait les hommes de prendre la parole.
Ah bah là, en l'occurrence, là où j'étais, oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs, mais je peux vous le confirmer que là, en l'occurrence, ça m'a choqué. Oui. On a été choqué parce que, alors, on va pas dire que tout homme est potentiellement prédateur, quoi. Je veux dire. Alors, il y a le féminisme, il y a les associations qui défendent les enfants. Enfin, moi-même, je fais partie d'une association de protection animale, mais les enfants passent avant tout. Hein. Moi, tu touches un enfant, tu meurs. Hein. Moi, c'est ma devise.
Oui.
Non, mais c'est ça, moi.
Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, Fautini, c'est donc ça. J'ai bien compris que vous étiez mal à l'aise, en tout cas, avec la méthode, on va le dire comme ça, lundi dernier. Est-ce que vous y retournez aujourd'hui?
Alors, j'y retournerai. Je crois même que non. Déjà, je vais vous dire pourquoi je n'y retournerai pas. Parce que dans les alentours, rien n'est prévu. Il faudrait monter sur Paris, que tout le monde ne peut pas le faire. Et que là, il y a des mairies qui ont complètement interdit les manifestations.
Ah oui,
hein. Oui, bon, tout à fait.
Bah, donc, je ne suis pas certain, Fautini.
Une mairie n'a pas le droit d'interdire la manifestation.
C'est la préfecture qui peut interdire.
Oui, enfin, ou la préfecture, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vu, vous savez, sur Facebook, là, les posts qui passent. Il y a plusieurs mairies qui disent pas de rassemblement aujourd'hui.
Ce ne sera pas forcément devant les mairies. En effet, il y a eu des rassemblements devant les mairies après la mort de Liana, mais ensuite, les se sont donné rendez-vous devant les palais de justice pour en appeler notamment aux responsables politiques. Je vous remercie, Fautini, aussi pour votre témoignage. Vous êtes très nombreux à vouloir témoigner. Vous y étiez ou pas, d'ailleurs, lundi dernier. Est-ce que vous y retournerez aujourd'hui? On va aussi regarder ce que ça donne sur le WhatsApp et puis notre consultation, Martin.
On a beaucoup parlé de la mobilisation ou de la non-mobilisation des hommes lundi dernier. Est-ce que ça va changer ce soir? Véro nous écrit: attention à ne pas se focaliser que sur Paris. À Saint-Nazaire, moi j'y étais, il y avait énormément d'hommes lors du rassemblement lundi dernier. Stop, arrêtons de faire un clivage femme contre homme. Surtout dans ces cas-là, c'est ce qui pose aussi problème à Axel. Ces clivages, associations et politiques devraient être mobilisés pour ce drame. Au-delà des convictions divergentes, il y a des sujets qui divisent, d'autres qui doivent rassembler, nous écrit Axel au 0612 424 424.
Et puis on vous a posé la question sur nos réseaux sociaux après la mort de Liana. Ces appels à manifester là tous les lundis devant les palais de justice, est-ce que vous allez vous mobiliser?
Eh bien, vous répondez non à 73%.
Ah oui, donc il y a quand même 27% de oui dans la réponse. Et puis on va suivre évidemment ce soir, demain matin sur RMC, ces rassemblements annoncés partout en France. Mais dans un instant, autre actu aussi à la une sur RMC, c'est la Coupe du Monde. Et demain, c'est l'entrée des Bleus à la Coupe du Monde face au Sénégal. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui est en train de multiplier les interviews là un peu partout. On le voit ce matin encore dans Le Parisien. Il s'exprime sur tous les sujets, sur sa vie privée, sur l'éventualité d'une carrière en politique. Kylian Mbappé, de plus en plus clivant. Alors on va vous poser directement la question. À vos yeux, Kylian Mbappé est-il génial ou détestable? Vous venez y répondre tout de suite au 32-16.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Charles Magnin.
Midi et demi sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. C'est Estelle Midi et on est aujourd'hui avec Martin Bourdin, avec le propriétaire de gîte Jérôme Lavrieux, la journaliste Alain Correct, Juliette Briens, l'influenceuse et entrepreneuse Élise Goldfarb. Et on passe tout de suite au joueur du jour.
Mbappé, la frappe et le but! Le 51e but en bleu du capitaine Kylian Mbappé!
Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, très attendu demain soir pour l'entrée des Bleus dans cette Coupe du Monde. Ce sera évidemment à vivre, 21h en direct sur RMC. Mais en attendant de s'exprimer sur le terrain, eh bien Kylian Mbappé prend beaucoup la parole dans la presse. Ces derniers jours, il répond à toutes les questions, notamment sur son image. Dans Le Parisien ce matin, tiens, quand on lui demande s'il s'imagine un jour président de la République, il répond dans un sourire « Non, je suis déjà assez détesté comme ça ». C'est la preuve qu'il est conscient de son image de plus en plus clivante, on va le dire comme ça, auprès des Français, Martin.
Oui, il a peut-être lu le dernier podium des sportifs préférés des Français. Par exemple, il est quatrième, Kylian Mbappé, avec 23% des suffrages. C'est 10 points derrière Antoine Dupont, qui est troisième. Il est très très loin derrière, notamment Léon Marchand. Kylian Mbappé, sa cote de popularité ne cesse de s'effondrer, notamment depuis son départ du PSG pour le Real Madrid en 2019. 80% des Français le trouvaient sympathique, Kylian Mbappé. Il n'était plus que 58% 5 ans plus tard. On trouve moins proche du public, on trouve moins humble également. Et ce qui fait beaucoup parler sur Mbappé ces dernières semaines, ce sont ses prises de position politiques, notamment dans Vanity Fair, où il s'en est pris au Rassemblement National. Je sais quelles conséquences ça peut avoir pour mon pays quand des gens comme eux arrivent aux commandes. Voilà ce qu'il a expliqué. Jordan Bardella avait répliqué à coup de tweet. Mbappé, qui est aussi beaucoup critiqué pour son rendement sur le terrain. Aujourd'hui, plus d'un tiers des amateurs de foot aimeraient le voir remplaçant pendant cette Coupe du Monde. On rappelle qu'il est quand même capitaine, donc a priori il devrait être sur le terrain quand même demain soir. Une image qui tranche avec celle dont il bénéficie ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis où il a été accueilli en rockstar quand il est arrivé là-bas.
Mais ça d'ailleurs, Martin Bourdin était aux États-Unis pour préparer cette Coupe du Monde pour RMC. On a entendu tes reportages et sur place, Kylian Mbappé.
C'est une star.
Oui, voilà,
c'est une star. C'est quand on demande aux gens dans la rue qui veulent voir pendant cette Coupe du Monde, ils répondent forcément Cristiano Ronaldo, Messi, mais le troisième nom qui vient tout de suite et des fois même avant, c'est celui de Kylian Mbappé. Ils sont fans de Kylian Mbappé.
Donc superstar dans le monde, adulé dans le monde, mais critiqué, on va le dire comme ça, pour ne pas dire détesté par certains en France. Tiens, je vais commencer avec Jérôme Lavrieux. Est-ce que Kylian Mbappé est encore une icône intouchable ou au contraire, est-ce qu'on entend de plus en plus de critiques? Est-ce qu'elles sont justifiées?
Et c'est tellement volatile, tout ça. Ça me rappelle les débats que certains avaient avant les Jeux Olympiques. C'était nul, on allait se vautrer, on serait pas les on serait incapable de les organiser, pays sur le déclin, has-been, tout ça. Et les mêmes défilaient avec le drapeau en disant, voilà, les meilleurs Jeux Olympiques du monde. Il suffit qu'ils nous mettent deux buts. J'y connais rien en foot. Hein. Non, je regarde en général.
Là, on parle d'image, on parle pas de foot. Là, on n'est pas là pour parler 4-4-2. Ça.
Mais je regarde les matchs à partir du quart de finale quand la France est à l'affiche. Donc c'est vous dire si je regarde pas tout le temps. Deux buts, un but, deux buts, bien placés. Mais moi, j'ai dit du mal de Mbappé un jour.
Ah bah oui.
Jamais de la vie, jamais de la vie. Ça, c'est vraiment, c'est très volatile. Donc voilà, en ce moment, c'est comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'il est parti en Espagne, parce que le PSG, c'est l'équivalent de l'équipe de France pour les clubs, en fait. Et donc, certains ont eu sans doute un sentiment de trahison en allant pour ça. Moi, j'ai lu en détail son interview dans Le Parisien et je suis frappé par la récurrence de ses propos sur le fait qu'il vive mal la notoriété. Moi, ce qui me le rend sympathique dans cette interview, c'est que même si c'est enrobé de sourires, de vannes et tout ça, il y a quand même un sentiment de souffrance d'un jeune, parce que c'est un jeune.
De moins en moins.
Ouais, d'accord.
À la fin de l'année.
Ouais, enfin, par rapport à moi, il en a 32 moins quand même. Hein. Et un jeune qui n'a pas eu de jeunesse en fait, au sens où nous on a pu l'avoir les uns les autres. Et je le sens très en souffrance là-dessus. Et au début je m'étais dit il part en Espagne, c'est parce que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il va gagner plus d'argent. Je crois pas du tout. Je pense que c'est parce qu'il a un peu plus d'anonymat qu'il ne l'avait en France et que ça lui est physiquement et psychologiquement quasiment insupportable.
Il dit qu'il peut conduire sa voiture en Espagne, ce qui n'était pas possible en France maintenant qu'il a.
Donc ça me le rend sympathique.
Qu'il a le permis. Oui, mais alors Juliette Briens, j'entends Jérôme qui dit il est sympa, ce petit jeune, etc. En attendant, Kylian Mbappé, il fait un vrai choix. C'est-à-dire qu'à sa place, moi je me souviens, comparons par exemple à Zidane, qui ne disait jamais un mot plus haut que l'autre, pas un engagement, pas une prise de position polémique. Kylian Mbappé, il choisit de s'exprimer surtout, y compris la politique. J'imagine qu'autour de lui, il y a beaucoup de conseillers, désormais des sportifs, qui disent surtout ne te mouille pas, va pas là-dedans, etc. Kylian Mbappé, il choisit d'y aller tout droit. Il a pris la parole sur l'affaire Naël à l'époque. Là encore, il y a quelques semaines sur le Rassemblement National.
Ça. Mais donc, du coup, c'est un choix. Donc maintenant, faut assumer. Moi, mon avis, il y en a beaucoup qui ne partagent pas. Je pense que quand on est un sportif de ce niveau et qu'on participe en plus à des compétitions qui sont censés rassembler la communauté nationale, etc., le moins t'en dit, le mieux c'est. Moi, ils font ce qu'ils veulent. Je trouve que tous ces grands sportifs, que ce soit Wembanyama, Mbappé et tous les autres,
taisez-vous. Je vous, c'est un conseil quand je dis ça. Vos avis sur Naël, sur le RN et même les petites confessions privées, etc. De, Mbappé, il est scruté, donc tout le monde va aller chercher la petite phrase. Tout le monde va dire, mais il est dans le loin-loin. Il doit se contenter de courir vers un ballon, etc. Ça peut paraître méprisant, mais c'est lui qui fait le choix de s'étaler comme ça dans la presse, alors que le sport, c'est une des dernières choses qui rassemble. C'est quelque chose, on est tous ensemble là, on est derrière un drapeau. Donc quel est l'intérêt d'aller, en plus le problème c'est que quand tu t'exprimes sur des sujets notamment politiques, tu fais des choix parce que t'as tes propres sensibilités. Donc on est là avec un Mbappé qui va s'exprimer sur Naël, le petit ange ou le RN, mais qui aura jamais un mot sur Christophe Glaise par exemple, qui est voilà prisonnier en Algérie. Et ça va énerver beaucoup de gens. Ça va énerver beaucoup de gens parce qu'ils vont dire c'est quoi ce deux poids deux mesures, il prend toujours la parole pour les mêmes sujets mais pas sur les autres. Bah oui, parce que il est humain, donc il a ses opinions à lui, c'est totalement normal. Mais le problème c'est qu'il est pas obligé de faire ça.
Ah bah il est pas obligé. Le précédent capitaine de l'équipe de France, tiens, Juliette Stécu, ouais. Lors des précédentes Coupes du Monde, le capitaine des Bleus.
Je sais plus.
Hugo Lloris.
Ah oui.
Et alors qui sait ce que pense Hugo Lloris de la politique, etc. Non, mais il a jamais dit un mot comme
ça. Et Zizou, c'était pareil. Et moi, Zidane, pour moi, faisait le bon choix. Et d'ailleurs. Quel joueur de foot, quel sportif a été aussi rassembleur que Zizou? C'était incroyable.
En même temps,
et je pense que c'est aussi dû à ça.
Élise Goffard, c'est courageux. En même temps, il pourrait se dire, en effet, je ne dis rien, j'encaisse mon salaire, je brille sur le terrain.
Ouais, mais alors, faut pas se plaindre.
Lui, il fait ce choix. Il s'en plaint pas. Ouais. Mais il fait ce choix de s'engager, quitte à écorner son image. Est-ce que c'est courageux?
Oui, je trouve ça. Je le trouve très très dur avec Kylian Mbappé parce que. Ok, Zidane, il se positionnait pas, mais déjà, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Et surtout, on ne lui demandait rien. Si Mbappé se positionne sur Naël...
On aurait essayé. Je pense qu'il a reçu quelques demandes d'interview dans sa vie.
Bien sûr, oui. Je m'en doute. Mais on demandait beaucoup moins de positionnement politique aux sportifs à l'époque. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, si on lui pose la question, s'il parle de Naël et pas de Glaise, c'est peut-être parce qu'on lui a jamais parlé de Glaise.
Enfin, Naël, il a fait un tweet. Hein,
Mais attendez, le surnom de Kylian Mbappé, c'est Kiki de Bondy. Je peux comprendre qu'il ait un attachement particulier à ce qui se passe en banlieue parisienne et qu'il ait envie de parler de Naël. Et d'ailleurs, sur Naël, je vais te dire, il a fait deux tweets. Il en a fait un pour dire « Petit ange parti trop tôt », mais il en a aussi fait un pour dire « Arrêtez de tout casser, ça ne sert à rien ».
Ouais.
Donc, on lui tombe dessus et les gens qui lui tombent dessus sont les mêmes qui l'ont érigé en superstar mondiale. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on a envie de les mettre au top 50, dire c'est des icônes, je t'aime, je mourrai pour toi. Et une fois qu'on les a mis là, on veut les détruire.
Les trois L.
En fait, voilà, c'est quoi les trois L?
Je lèche, je lâche et je lynche.
Et voilà. Donc en fait, ce mec, il a rien demandé à personne. Il subit la place où on l'a mis. Le mec, il est juste excellent au foot. Il fait des choses super. Il se la pète pas. Moi, on peut dire qu'il se la pète. Quel joueur ne se la pète pas? Ils gagnent des millions. Ils sont plus normaux, qu'on le veuille ou non. Ils n'ont pas une vie normale. C'est normal qu'ils soient déconnectés. On les a mis là. On les met dans cette position.
Il a le droit de se la péter. On va quand même aussi poser la question au 32-16. Un mot, Élise.
J'aimerais juste dire, moi, je sais qu'il a dépensé 250 000 euros dans une vente aux enchères pour une association. Quel jeune de 25 ans aujourd'hui te donne 250 000 balles en un coup comme ça en 5 minutes pour une asso.
C'est lui qui les a.
Oui, et bah, il y a des gens qui les ont. Je peux te dire que moi j'en connais qui les ont et qui donnent rien.
On va accueillir Cyril au 32-16 qui nous appelle de la Manche. Bonjour Cyril.
Bonjour l'équipe.
Salut Cyril, directeur d'une société d'intérim, supporter du PSG, très belle qualité Cyril. Cyril, tiens, supporter du PSG, donc vous avez suivi, supporté Kylian Mbappé pendant des années, là à la veille de son entrée en lice à la Coupe du Monde, quelle image vous avez de lui? On pose la question, génial ou détestable Cyril?
Alors, moi c'est plus une image footballistique, il est vrai, parce que concernant ses tweets et tout ce qui va bien autour de ça, moi je suis personne pour juger du fait, je considère qu'il a le droit d'être écouté, ou en tous les cas de prêcher sa parole, en tous les cas, au même titre que moi ou tous les politiques ou qui que ce soit. Par contre, footballistiquement parlant, sans critiquer son jeu, c'est surtout son état d'esprit qui devient vraiment pour moi absolument insupportable, c'est-à-dire qu'on a affaire à un égocentrique de base qu'il n'était pas comme ça. Alors je ne sais pas ce qui l'a fait changer comme ça, mais aujourd'hui en fait, il devient vraiment exécrable à mes yeux, et j'en deviens moi qui suis amoureux du football, alors peut-être plus du PSG que de l'équipe de France, il est vrai actuellement, suite à ce qui s'est passé, mais aujourd'hui en fait, l'équipe de France ne m'intéresse moins moins à cause de lui, parce qu'en fait, il se comporte vraiment comme un enfant gâté, et qu'aujourd'hui, l'équipe de France doit subir, au même titre que le PSG a subi des choses vis-à-vis de son comportement footballistique, et accessoirement à Madrid aussi, où il a fait subir tellement de choses à certains de ses
joueurs. Cyril, reconnaissez que, non mais Cyril, il y a un paradoxe quand même. On parle d'un joueur, c'est un talent générationnel, on en a un comme ça tous les 10 ou 15 ans. Il nous a fait gagner une Coupe du Monde en 2018, triplé en finale en 2022. C'est le capitaine de l'équipe, et on voit même, Martin nous disait dans le sondage, qu'il y a quoi, un tiers des Français qui voudraient le voir remplaçant. On est le seul pays du monde à se tirer une balle dans le pied comme ça. Dire, c'est que, voilà, les Argentins, ils ne se posent pas la question avant de mettre Messi sur le terrain. Non, mais la mini Yamal, personne ne le conteste en Espagne.
Le niveau de Messi,
Laissez Cyril répondre.
Alors, par contre, par rapport à ça, là où j'ai un reproche à vous faire juste furtivement, c'est il nous a fait gagner. Et c'est ça que je supporte pas, en fait. Moi, je suis un amoureux du sport co. Et moi, je déclare pas que Kylian Mbappé nous a fait gagner. Il a fait partie de ceux qui ont fait gagner. Alors, à ce moment-là, on peut aussi cracher sur Kolo Muani, qui nous a fait perdre tout seul la finale Ligue des Champions contre l'Argentine.
Oui, c'est vrai.
Plutôt. Vous voyez? Donc, non, en fait, c'est ça.
Si je résume, lui, Cyril, vous voulez pas que ce soit, faut pas que ce soit l'équipe de Kylian, mais l'équipe de France, quoi.
Mais bien sûr. Ouais. Mais c'est clair. Et tout le monde le sait. Enfin, c'est aussi pour ça que tout le monde le veut sur le banc. Je veux pas vous parler de tactique.
Pas tout le monde.
Non, mais plein de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Ousmane Dembélé qui peut pas jouer dans l'axe parce que Monsieur Mbappé considère que. Et donc, alors qu'on sait tous qu'il est meilleur, on sait qu'il est meilleur à gauche. Donc non, on va le laisser dans l'axe. Bon,
après, Cyril, on va attendre un peu. S'il met un triplé demain soir, on dira tous bravo Mbappé, bravo Deschamps. Oui. Voilà, c'est, là, avec le foot, c'est toujours la formidable incertitude. Ce qui est certain, c'est qu'on va vivre toutes ces émotions en direct sur RMC. Je vous remercie, Cyril. Évidemment, ce sera à suivre en direct sur RMC à l'antenne. Vous le savez, vous ne manquez rien de cette Coupe du Monde. Il y a aussi la radio digitale sur l'appli RMC 100% Coupe du Monde. Et puis, vous êtes nombreux à avoir réagi aussi au 32-16 et sur le WhatsApp, Martin.
Ça a fait réagir Audrey, pour qui Mbappé est devenu détestable. Il faut arrêter de diaboliser les gens qui n'aiment pas Mbappé. Quand on regarde son jeu, il y a de quoi le critiquer. De plus, ses prises de parole clivantes dans une société déjà divisée, il a choisi son camp, et en tant que capitaine de l'équipe de France, je trouve ça malvenu. Et puis on a Romain qui défend Mbappé quand même. Marre de cette mentalité française, on critique Mbappé peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait. On a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde dans notre pays et on ne fait que le descendre, nous dit Romain.
Et quand on vous pose la question sur nos réseaux, qu'est-ce que ça donne alors?
Eh ben, vous le trouvez détestable en majorité. Kylian Mbappé, 71%.
Mais ça va pas la tête.
Bah oui, bon, attendons de voir ses performances sur le terrain. C'est comme ça en général qu'on juge les joueurs de foot. Restons sur le terrain. On va vivre ça en direct évidemment sur RMC. Vous continuez de réagir au 32-16. Dans un instant, on va accueillir Anthony Morel pour On n'arrête pas le progrès. Anthony qui va nous parler du gouvernement américain qui a tout simplement coupé l'une des plus grandes intelligences artificielles ce week-end. Ouais, jugée trop dangereuse. Tiens, je vois que ça choque Élise et Juliette. On va tout comprendre dans un instant avec Anthony Morel qui va tout nous expliquer. C'est en direct, c'est sur RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Charles Magnin.
12h50, vous êtes bien sur RMC à la radio. Vous pouvez nous voir aussi sur RMC Story à la télé, le canal 23 de la TNT, pour accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Bonjour Anthony.
Bonjour Charles.
Une décision qui va faire date dans l'histoire de l'IA, l'intelligence artificielle. Ce week-end, le gouvernement américain a contraint Anthropic, l'un des géants de l'IA, à couper l'accès à ses modèles les plus puissants pour des raisons de sécurité nationale. De quoi on parle exactement? Est-ce que les IA sont considérées comme trop dangereuses désormais?
Alors, je vais recontextualiser un peu parce que quand on parle d'IA, ça va très très vite. Et je sais qu'on suit tous à des vitesses différentes. Déjà, Anthropic, est-ce que ça parle à tout le monde autour de la table?
Oui, c'est Claude.
Voilà, exactement, c'est Claude. Donc, pour remettre un petit peu en place, c'est le grand concurrent ou l'un des grands concurrents de ChatGPT aujourd'hui. C'est une grande entreprise, très grande entreprise. Ils sont même plus gros que OpenAI et Anthropic aujourd'hui. Et donc, il y a quelques semaines, ils ont lancé une nouvelle version, ou plutôt, ils l'ont annoncé. Ils l'ont pas lancé. Ça s'appelle Mythos. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas lancé? Parce que cette IA, elle est jugée trop puissante et donc trop dangereuse pour le grand public. Pourquoi dangereuse? Eh bien, parce que dans les phases d'essai, cette intelligence artificielle, elle a été notamment capable, de manière totalement autonome, sans intervention humaine, de détecter et d'identifier des failles de sécurité informatique critiques dans des logiciels qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, imaginez, si on met ça dans les mains de cybercriminels, par exemple.
Comment pirater la CIA, quoi?
Exactement. Ça pourrait être absolument catastrophique. Un autre exemple qui est donné par le créateur de cette entreprise, il dit, bah oui, on peut travailler sur des nouveaux types de modèles biologiques. Donc, mis entre de mauvaises mains, on pourrait, par exemple, inventer des nouvelles armes biologiques avec ce genre de modèle. Donc forcément, on n'a pas envie que ça se retrouve n'importe où, quoi, si vous voulez. Donc du coup, ils l'ont pas sorti, ils ont sorti un modèle édulcoré qui s'appelle Fable 5. Ça, c'était la semaine dernière. Et ce modèle-là, normalement, il y a des garde-fous qui font que quand on lui pose des questions qui sont un peu dangereuses, eh ben, on va avoir une réponse qui est un peu moins puissante que ce qui serait normalement possible. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Sauf que, visiblement, ces garde-fous, eh bien, ils ne sont pas suffisants. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui ont réussi à les contourner. Ils ont prévenu les autorités américaines. Les autorités américaines ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Couper tout. Ils ont demandé donc à Anthropic de couper ces deux modèles, en tout cas de les couper pour les non-américains. Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'ils ont dit non, c'est trop dangereux pour que des puissances étrangères puissent y avoir accès. Les Américains, pas de problème. Mais par contre, les autres, non, non. Anthropic a dit, ben non, on va pas faire la différence. Ils ont tout coupé pour tout le monde. Mais ça montre, en tout cas, et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, notre dépendance technologique terrible vis-à-vis des États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider
qui a accès à l'IA ou pas. Quoi.
Exactement. Et donc, si on imagine un monde où on a tout le monde qui utilise des grandes banques, des grands laboratoires pharmaceutiques, des hôpitaux qui utilisent l'IA au quotidien, bah en fait, si on vous coupe le robinet du jour au lendemain, c'est absolument dramatique en réalité.
Ça, c'est un sujet qui devrait alerter la classe politique.
Oui, moi, je pense que ça devrait être vraiment au cœur même de la prochaine campagne électorale. Je suis pas sûr que ça soit le cas, mais ça va être l'un des gros sujets. En fait, c'est un des enjeux essentiels aujourd'hui. Alors, quand même, sur ce sujet-là en particulier, sur cette actu, il y a eu une réaction de tous les hommes politiques. Ils ont, alors de manière très très étonnante, ils sont même unanimes. Donc que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Édouard Philippe, Gabriel Attal, ils ont tous tweeté et ils ont tous dit plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, en gros, il faut se prémunir contre le risque de vassalisation de la France. Il ne faut pas qu'on devienne une colonie numérique des États-Unis. Et il faut qu'on mette en avant notre puissance en matière d'IA, nos outils. On a Mistral, notamment, qui est un peu notre champion national. Exactement, le chat. Et puis, ils sont très forts sur certaines choses. Ils ne sont pas forcément aussi performants que ChatGPT ou Anthropic sur les modèles grand public. Mais bon, en tout cas, c'est plus rassurant pour des entreprises françaises d'avoir accès à ce genre de modèle.
Il nous faut une souveraineté française ou, en tout cas, européenne sur l'IA, mais est-ce que là, le fait que ce soit si dangereux que ça, cette IA, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est, il y a un peu de marketing? Est-ce qu'on joue à se faire peur en ce moment?
Oui, alors c'est un peu des deux. C'est-à-dire que ces modèles, ils sont objectivement puissants. C'est-à-dire qu'ils sont testés. Il y a aujourd'hui des systèmes qui permettent de tester objectivement les IA et on voit bien qu'il y a une augmentation exponentielle de leur puissance et ça va continuer dans les mois et dans les années qui viennent, très clairement. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est un argument marketing redoutable. C'est-à-dire, on est une grande entreprise d'IA, on cherche à gagner de l'argent évidemment. Regardez, mon modèle, il est tellement puissant qu'il est très dangereux, je ne vais pas le mettre sur le marché. Ça, c'est quand même l'argument ultime.
Ça donne envie de tester.
Ça donne quand même envie de tester, on est d'accord. Et ce même patron de cette grande entreprise, il y a encore une semaine, il disait, ah ben non, mais il faut appuyer sur le bouton pause du développement de l'intelligence artificielle. Donc en fait, il souffle un peu le chaud et le froid. C'est d'un côté, je vous fais peur, de l'autre côté, j'essaye quand même de sortir mes modèles. Mais en tout cas, je pense que ça fait partie des très grands enjeux du moment. Il faut vraiment s'y intéresser à ces grands modèles d'intelligence artificielle qui deviennent de plus en plus performants.
Merci beaucoup Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès, à réécouter quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC, toutes les plateformes de téléchargement. De quoi parle-t-on demain?
Demain on va parler foot, c'est le grand début des Bleus, il paraît.
C'est demain là?
Je crois,
c'est noté. Ça, hein.
Alors j'ai demandé à l'IA justement si on allait gagner et si on avait des chances de gagner et les probabilités. Donc moi je vais pas vous le dire maintenant.
Allez, on garde le suspense. Pour demain, les pronos d'Anthony Morel, c'est demain sur RMC, mais dans un instant, c'est le zapping, le meilleur de l'actu dans l'Estelle Midi. On va parler de ces 500 automobilistes qui se sont fait retirer leur permis de conduire pour usage du téléphone au volant. Il y a désormais 8 départements qui ont mis ça en place. Est-ce qu'il faudra le faire partout en France? On va en parler dans le zapping. Et puis les examens du bac et du brevet qui n'auront lieu que le matin désormais. C'est la réponse du gouvernement face aux vagues de chaleur. Là aussi, on en débat dans un instant sur RMC.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.